Formation biblique de disciples. Cours numéro 16. Le peuple de Dieu. Section 2. L'Église et Israël. Première partie. Caractéristiques de l'Église. Dans les Écritures, le peuple de Dieu est représenté de sept manières différentes selon leur ordre d'importance. La première représentation est l'Assemblée, Ecclésia. Éphésiens 2, verset 22, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. La deuxième représentation est le corps de Christ. Éphésiens 1, verset 22-23, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La troisième représentation est son chef-d'œuvre ou son ouvrage. Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La quatrième représentation est la famille de Dieu, ou maison de Dieu. Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. La cinquième représentation est le temple de Dieu, ou édifice. Éphésiens 2, verset 21, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. La sixième représentation est l'épouse de Christ, ou la femme. Éphésiens 5, verset 25 à 27, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La septième représentation est celle de l'armée. Éphésiens 6, versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous allons donc passer en revue ces sept représentations en nous posant la question: qu'est-ce que cela implique dans notre relation avec Dieu et avec les autres membres du groupe? Grand 1, l'Assemblée. Cette représentation est d'une importance capitale, car elle est la clé pour tout le reste. C'est un rassemblement, une convocation générale. Il s'agit aussi d'un gouvernement. Dans le Nouveau Testament, l'Assemblée était le corps gouvernemental de la ville ou de l'État. Quand nous parlons d'Assemblée, nous citons le gouvernement de Dieu, l'un des plus grands sujets sur lesquels le Saint-Esprit insiste de nos jours. Si nous sommes l'Assemblée de Dieu, qu'est-ce qui la caractérise? Petit 1, quelles sont les conditions demandées pour faire partie de l'Assemblée du Seigneur Jésus-Christ? Matthieu 16, versets 15 à 18. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Grâce à cette révélation, Pierre a été qualifié comme étant une pierre bâtie sur le roc qui représente Jésus. Pierre n'est qu'une pierre qui doit être bâtie sur ce roc merveilleux, Pétra. L'accent est mis sur mon Église. Jésus est en train de dire qu'il y a beaucoup d'assemblées, puisque chaque ville possédait son gouvernement, les nations avaient les leurs, Moïse avait son assemblée qu'il avait fait sortir d'Égypte, mais maintenant je construis mon assemblée. Il existe donc une relation entre construire et moi. Donc si Jésus construit son Église, il en contrôle l'admission. Pour cela, il faut, comme pour Pierre, une rencontre, un face-à-face avec Jésus. Puis nous recevons une révélation qui est donnée par le Père de qui est Jésus. Puis nous la confessons. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 10, versets 32-33, Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant le Père. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Jésus a dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand Jésus affirme que tous ceux qui étaient venus avant lui étaient des voleurs et des brigands, il englobe tous ceux qui prétendent montrer le chemin vers Dieu en dehors de lui. Ils sont des séducteurs, des voleurs et des brigands. Petit 2. Pratiquement, lorsque nous lisons ce mot l'assemblée, il nous faut penser au peuple de Dieu réuni en assemblée selon un ordre divin et sous une autorité divine. Hébreux 12, versets 22 à 24. Mais au contraire, vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu juge de tous, des esprits parvenus à la perfection, de Jésus médiateur d'une nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Petit a, Dieu gouverne. Toutes les autorités dans les cieux et sur la terre ont été données à Jésus-Christ, car depuis sa mort et sa résurrection, il se trouve maintenant à la droite du Père, jusqu'à ce que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied. Il est élevé au-dessus de toutes les principautés et les puissances, et son nom est au-dessus de tout nom. Il domine au milieu de ses ennemis, et son règne s'exerce par l'esprit depuis Sion, l'assemblée, l'autorité. Psaume 110, versets 1 à 2, de David. Psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. L'autorité du Seigneur avance et le nom du Seigneur est gravé sur son sceptre, car son nom est l'emblème de son autorité. Depuis Sion, l'Esprit envoie ce sceptre à l'assemblée du peuple de Dieu. Avec lui, il gouverne maintenant au milieu de ses ennemis. Ainsi, Christ gouverne actuellement, mais pas directement. Autrement dit, le gouvernement de Christ est effectif quand nous, dans l'assemblée, prenons notre juste place, reconnaissons nos responsabilités et notre autorité et l'exerçons sur le compte de Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Il est important de savoir que Christ gouverne maintenant. Quand vous comprendrez ceci, cela va changer votre façon de vivre. Petit b, à travers nous. Ensuite, nous devons comprendre comment il gouverne et la réponse est à travers nous. Nous sommes son assemblée, nous sommes son corps gouvernemental. C'est de nous que sortent les décrets qui déterminent la destinée des rois, des nations et des gens. Le gouvernement de Dieu sur l'univers nous est investi. Paul a dit à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 6, versets 1 à 3, Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les infidèles et non devant les saints? Hélas, à cause de leur ignorance, les chrétiens de Corinthe ressemblaient beaucoup aux chrétiens d'aujourd'hui, et bien souvent nous ne réalisons pas tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Je suis convaincu que l'accomplissement du peuple de Dieu n'aura pas lieu tant que nous n'aurons pas appris à utiliser son autorité et tant que nous n'aurons pas appris ce qu'est l'assemblée, le corps gouvernant de Dieu pour maintenant. Méditez ce passage dans Matthieu 18, versets 18 à 20. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié dans le ciel. En vérité, je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Remarquez que l'initiative ne vient pas du ciel mais de la terre. Quand vous vous accordez sur la terre, ceci aura été accompli à la croix du calvaire. Quand nous lions sur la terre, c'est lié au ciel. Dieu a placé la responsabilité sur nous. Nous sommes l'assemblée. C'est comme s'il disait, vous prenez les décisions et je me charge de les exécuter. Tous les enfants de Dieu ont un charisme et tous nous sommes appelés à un ministère de service. Cependant, dans la relation entre les enfants de Dieu, deux questions importantes se posent. celle du principe de l'autorité et de la soumission, et celle de la reconnaissance du ministère et de l'exercice des dons. 1 Pierre 4, versets 10 à 14, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ces questions essentielles pour nous amener à ressembler à Jésus feront l'objet de cours ultérieurement. Récapitulatif. L'image de l'assemblée est donc celle-ci. Le peuple de Dieu se rencontre dans une assemblée divine, dans un ordre divin et dans une autorité divine. Le Seigneur, l'Esprit, à travers leurs prières, leurs témoignages, à travers ce qui se passe au milieu d'eux, étend de là le sceptre, emblème du gouvernement, de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Grand 2, son corps et son ouvrage. Petit 1, disponibilité et interdépendance pour faire la volonté de Dieu. Éphésiens 1, versets 22-23. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le corps sert en tant qu'instrument de Dieu ou comme son agent. Par essence, il est l'agent du Christ et les membres doivent être à la disposition de la tête. Pour cela, il leur est demandé d'être disponible pour la tête. C'est pourquoi la seule aptitude que Dieu cherche en l'homme, c'est sa disponibilité. Puis dans notre relation les uns envers les autres, l'interdépendance est indispensable. C'est pourquoi nous avons besoin les uns des autres. Hébreux 10, versets 5 à 7. Tu m'as formé un corps. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le corps sert à faire la volonté de Dieu, la tête étant le Christ. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. 1 Corinthiens 12, verset 21. Si nous reprenons la première prophétie dans l'Écriture, dans Genèse 3, verset 14-15, celle-ci, c'est-à-dire la descendance de la femme Jésus-Christ, t'écrasera la tête du serpent, et tu lui blesseras le talon. Le point de contact entre le Messie et le serpent, c'est la tête du serpent et le talon du Messie. Donc le talon du Christ écrasera la tête du serpent. Romains 16, verset 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Sous les pieds de qui? Sous les nôtres. C'est nous son peuple que Christ va employer pour écraser la puissance de Satan. Remarque, ce fut accompli, mais en partie. Il y eut 10 grandes persécutions que l'Empire romain fit subir à l'Église primitive, mais finalement l'Église a écrasé la tête du serpent. L'Empire romain, le plus puissant État du monde, à l'époque fut vaincu par l'Église en l'espace de 3 siècles en se tournant vers la foi chrétienne et en abandonnant officiellement son paganisme. Quand le corps s'en ira lors de l'enlèvement, son dernier assaut sera contre la tête du serpent. Les pieds seront la partie qui sera utilisée pour administrer la victoire finale de Christ. Ce temps est très proche. Petit 2, la relation avec les membres. Lorsqu'une personne a rencontré le Seigneur Jésus et qu'elle lui a donné sa vie, elle doit trouver sa place et sa fonction dans le corps. C'est ce que Paul explique dans Romains 12, versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Malheureusement, des milliers de chrétiens n'ont manifestement pas trouvé leur place et leur fonction. Ils sont sauvés, ils appartiennent au Seigneur, beaucoup désirent ardemment le servir, mais ils ne savent pas quelle est leur place. C'est pourquoi ils vivent une continuelle frustration. Ici, Paul parle de trouver sa place en tant que membre dans le corps. Petit A, étape pour trouver sa place comme membre dans le corps. La première chose est, d'après Romains 12, de régler la question de l'appartenance de notre corps. Avez-vous vraiment offert votre corps au Seigneur et renoncé au droit de propriété sur votre corps? Paul parle de sacrifice vivant, car il nous invite à offrir nos corps sur l'autel de la consécration à Dieu, comme dans l'ancienne alliance, mais à la différence qu'on ne le tue pas. Quand on offre son corps, c'est alors que notre esprit est renouvelé. Vous allez commencer par votre intelligence à découvrir la volonté de Dieu. L'étape suivante est de garder une attitude d'humilité. Vous aurez alors la mesure de foi nécessaire pour accomplir votre tâche. C'est enfin que viennent les dons. Remarquez qu'ils viennent en fin de liste. Ainsi, demandez d'abord à Dieu de vous montrer votre place dans le corps. Et quand vous commencerez à fonctionner à votre place, c'est alors que les dons qu'il vous faut vont commencer à fonctionner. Soyez terre à terre et pratique. Petit b, unité par le Saint-Esprit. Si nous lisons 1 Corinthiens 12, verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Remarquons que le baptême du Saint-Esprit a pour objectif d'unir le corps et de rendre efficace son unité. Ensuite, Paul parle de la diversité des membres, tels que le nez, les yeux, etc., et de la diversité des fonctions, telles que l'odorat, l'ouïe, le toucher, etc. Petit 3, son ouvrage. Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes son œuvre d'art, ou encore son chef-d'œuvre, selon les traductions. Nous sommes la démonstration de ce que Dieu peut créer. Éphésiens 3, verset 10. Ainsi désormais, les principautés connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Le génie créatif de Dieu y est exprimé. Mais qui sommes-nous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire? Romains 9, verset 20 à 21. Toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase dira-t-il au modeleur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Grand 3. La famille et le temple de Dieu. Petit 1. La famille. La famille montre clairement la nature de Dieu en tant que père. Un père a comme priorité d'apprendre à ses enfants à obéir et à développer entre eux un sentiment d'amour les uns à l'égard des autres. Éphésiens 3, verset 14-15, « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » La Bible dit que derrière toute chose, il y a notre Père. Le monde entier est l'expression de sa paternité, et ses enfants en particulier le sont. Jésus a souvent parlé à ses disciples au sujet du Père, et Philippe lui demande, en Jean 14, verset 8, « Seigneur, montre-nous le Père. » Cela attriste Jésus qui lui avait dit au verset 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le but final de Jésus est de nous amener au Père. Or Philippe ne l'a pas compris et Jésus lui répond au verset 9 « Celui qui m'a vu a vu le Père. » C'est ce qu'écrit Pierre dans 1 Pierre 3 verset 18. « En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » L'objectif de Dieu est de s'attribuer une famille et de se révéler comme un père. Il veut rassembler une grande famille de fils rendus semblables au modèle du Fils Jésus-Christ. Et toute chose concourt dans ce but qui est de nous rendre conformes à l'image de Jésus-Christ. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En Éphésiens 1, versets 3 et 4, Paul nous dévoile le plan de Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. C'est son plaisir, sa volonté, son dessein, notre destinée, voilà ce qui compte quand nous devenons ses enfants en Jésus-Christ. Dieu nous a rendus agréables dans son bien-aimé. Il a créé chaque être humain avec un vide intérieur qui ne peut être rempli qu'avec une seule chose, un papa. Chaque enfant a besoin d'un papa pour se structurer et croître normalement. Personne ne peut connaître la paix réelle et le sentiment d'accomplissement dans la vie sans être correctement relié à un papa. Dieu a créé l'espèce humaine de cette façon parce qu'à travers le Père humain, son objectif est de se révéler lui-même en tant que Père divin et éternel. La fonction suprême d'un père de famille est de révéler Dieu à la famille, non parce qu'il dit, mais parce qu'il est. Après s'être attribué une famille et s'être révélé comme un père, il veut que nous réalisions que nous avons besoin de la famille de Dieu, au moyen de nos frères et sœurs dans la famille humaine. Nous avons besoin d'apprendre à nous accepter les uns les autres, tels que nous sommes, à nous aimer les uns les autres au moyen de l'agapé, qui est l'amour divin par excellence. Or, le témoignage de Jésus nous apprend que l'amour agapé ne s'obtient pas facilement, car il est le fruit de tout un travail du caractère. Dans 2 Pierre 1, versets 5 à 7, nous voyons sept étapes progressives qui nous conduisent à l'amour. Pierre nomme sept choses qu'il nous faut joindre à notre foi pour y parvenir. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la science à la tempérance la patience à la piété à l'amour fraternel la charité. Petit 1, la vertu ou l'excellence. Petit 2, la connaissance de la volonté de Dieu. Petit 3, la maîtrise de soi, la tempérance. Petit 4, la persévérance. La patience ou l'endurance. Petit 5, la piété. Même parvenus à ce niveau, nous ne sommes pas encore parvenus à l'amour agapé. Il nous faut parvenir à la septième étape. Sixièmement, la fraternité, l'amour fraternel, j'aime mes frères. Petit 7, l'amour chrétien, qui signifie que j'aime particulièrement mes ennemis. L'amour est quelque chose qui doit être cultivé et perfectionné. Il nous faut apprendre à donner notre vie pour les frères. Chaque fois qu'il y a eu beaucoup de fruits dans mon ministère, c'est pendant les périodes d'abnégation de moi-même. Aussi longtemps que je me fais plaisir, je ne suis pas en train d'apporter la vie de Christ. Les deux sont opposés. C'est pourquoi jeûnez et demandez au Seigneur de vous donner l'amour. Cela vous sera d'une grande aide. Soyons honnêtes, il n'est pas facile d'aimer les autres chrétiens, surtout lorsqu'ils vous dérangent et finissent par bouleverser tout votre programme. Cela me coûte. Cependant, c'est ainsi que le Seigneur m'a appris l'amour, en les bénissant et les aimant, même si je ne prétends pas y être encore parvenu totalement. Qu'est-il exigé de notre part dans notre relation avec Dieu en tant que Père? Le mot-clé est l'obéissance. Lisons Hébreux 2, versets 10 à 12. Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe, et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Comment Jésus a-t-il appris l'obéissance? À travers la souffrance. Même s'il n'a jamais été désobéissant, il a appris l'obéissance. Comment apprenons-nous l'obéissance? Vous et moi devons l'apprendre de la même manière. Il n'y a qu'une façon d'apprendre l'obéissance. C'est en obéissant. Cela s'apprend étape par étape en obéissant. L'obéissance entraînera toujours la souffrance parce qu'elle exige de renoncer à sa propre volonté. La phrase clé dans l'obéissance de Jésus a été « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Luc 22, verset 42. Jésus a dit que si quelqu'un veut venir à lui, il doit renoncer à lui-même. C'est un sacrifice de soi. C'est toujours douloureux car notre vieil homme n'aime pas être mis de côté. Suivre le Seigneur est un renoncement continuel de son ego. Dieu veut que nous parvenions à la maturité de fils dans l'obéissance. Or, Jésus est le modèle de la maturité. Il est donc le chemin à suivre pour nous. Petit 2, le temple de Dieu. Petit a, la demeure vivante de Dieu. Le temple permet à Dieu qu'il ait un lieu. Acte 7, verset 48. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Dans un sens, la demeure de Dieu est en nous. Souvenons-nous que le temple est fait de chacun de nous. Nous sommes chacun une pierre vivante qui ensemble forme un temple vivant. Or, une pierre a besoin d'être taillée, corrigée, rectifiée pour être utilisable. Je crois donc que l'attitude juste que nous devons avoir envers Dieu, c'est d'être corrigible et être à notre place est nécessaire dans notre relation avec les autres. Petit b, le matériau du temple. La question est de savoir avec quelle sorte de matériau nous bâtissons sur le fondement. 1 Corinthiens 3, versets 10 à 12. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Il existe deux sortes de matériaux avec lesquels nous pouvons construire. Le matériau qui résiste aux tests des épreuves et celui qui n'y résistera pas. 1 Corinthiens 3, verset 13 nous dit « L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. » Paul veut nous parler de notre contribution au service de la maison de Dieu et qu'elle devra résister au feu. 1 Corinthiens 3, versets 14 et 15. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Or, chacun d'entre nous devra comparaître devant le tribunal du Christ pour être jugé pour son service. 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Cela ne concerne pas la destinée de notre âme, puisque l'Écriture nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mais cela concerne l'œuvre de chacun, celle qu'il aura accomplie dans la maison de Dieu. Petit c, un chrétien, un temple individuel. Dans 1 Corinthiens 3, verset 17, il y a cet avertissement de ne pas détruire le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Jusqu'à présent, nous avons vu le temple collectif qui est tous les croyants réunis ensemble. Mais Paul parle aussi du temple individuel dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps qui appartient à Dieu. Chaque croyant a le privilège d'offrir au Saint-Esprit son corps physique pour être le temple dans lequel il peut résider. Grand 4, l'épouse et l'armée. Petit 1, l'épouse. Petit a, révéler la gloire de Dieu. Que révèle l'épouse de Christ? La réponse est la gloire. Quelle devrait être notre attitude envers Christ en tant qu'épouse? Toutes les paraboles qui mentionnent l'épouse parlent d'attente ou d'empressement. L'épouse devrait révéler la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens 11, verset 7, il est écrit que l'homme est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme ou l'épouse est la gloire du mari. Autrement dit, la responsabilité de l'épouse et de refléter la gloire du mari. L'épouse reflète donc ce qu'est son mari, elle n'est en rien inférieure à lui. L'objectif de Dieu dans l'Église est de manifester la gloire de Christ, l'époux dans l'épouse. Il est donc important de réaliser que l'épouse pour laquelle Christ va revenir va le glorifier. Éphésiens 1, verset 12, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous allons être la démonstration de sa gloire, de sorte que tout l'univers va célébrer sa gloire quand il la verra en nous. Petit b, une église glorieuse et sans tache, une église préparée. Éphésiens 5, verset 25, Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache. C'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Les croyants sont sanctifiés au travers de la parole proclamée. Christ a racheté l'église par son sang afin qu'il puisse ensuite la sanctifier par sa parole. Avec le sang, il est le Rédempteur, et avec l'eau, il est celui qui la sanctifie par sa parole prêchée ou proclamée, et c'est seulement après qu'elle ait été sanctifiée qu'elle peut devenir ce qu'elle devrait être, cette Église glorieuse, sans tache. Cela signifie que l'Église sera imprégnée de la présence manifeste et puissante de Dieu. Or, le diable essaye de détourner l'épouse de sa loyauté envers Jésus-Christ, et d'entraîner l'Église à devenir une courtisane par la séduction de l'esprit de Babylone, qui est l'esprit du monde. L'épouse reste juste et vraie, alors que la courtisane aura été trompée et détournée de sa loyauté envers Christ. Ce sont ces deux sortes de chrétiens que nous allons voir en cette fin des temps. Lisons Apocalypse 17, versets 1 et 2. « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Et Apocalypse 21, verset 9. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Christ reviendra pour ceux qui l'attendent comme sauveur. Pour les autres, il reviendra comme juge. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Nous avons aussi une description de quoi sera vêtue l'épouse au verset 8. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Autrement dit, par ces œuvres de justice, l'épouse se sera préparée. Chacun d'entre nous a une robe à terminer, et nous la terminons par les actes d'obéissance. Lisons Philippiens 2, versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Cela fait partie de notre responsabilité, non seulement de persévérer nous-mêmes, mais également de nous encourager les uns les autres. Hébreux 10, verset 23, « Confessons notre péché sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Et au verset 24, « Veillons les uns sur les autres, pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Petit 2, l'armée. L'armée manifeste la victoire de Dieu. Qu'exige donc notre relation avec notre commandant en chef, la discipline? Et qu'exige notre relation envers les autres, la loyauté? Ces deux qualités sont nécessaires pour s'exercer au combat et gagner, car si l'épouse se prépare pour l'époux, l'armée du Seigneur va de l'avant pour vaincre Satan. Nous devons savoir que l'Éternel Dieu est un héros de guerre. Psaume 24, versets 8 à 10. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le fort et le héros. L'Éternel, le héros de la guerre. Porte et levez vos linteaux. Élevez les portails éternels. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. C'est lui le roi de gloire. Nous devons également savoir que Christ a déjà remporté la victoire. Colossiens 2, verset 15 dit que Dieu en Christ a dépouillé les autorités et les dominations. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé Satan de son armure et l'a livré en spectacle en triomphant de lui par la croix. La croix est l'endroit où Christ, une fois pour toutes, a scellé la défaite de Satan. Cependant, Satan s'occupe de maintenir les chrétiens dans l'ignorance de ce qu'ils ont acquis à la croix. Christ n'est pas seulement venu pour vaincre Satan, mais pour partager sa victoire et ses fruits qui découlent de la croix. En 2 Corinthiens 2, verset 14, nous avons cette glorieuse déclaration. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Mais qu'exige notre relation envers le commandant en chef? Dans Éphésiens 6, versets 10 et 11 et 13, Paul nous encourage. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il est donc de notre responsabilité, en tant que soldats dans l'armée de Christ, de nous revêtir de notre armure. Paul nous avertit clairement que nous sommes dans une bataille. Or Dieu a pourvu une armure pour nous et nous donne une liste des 6 pièces qui la composent dans les versets suivants. C'est pourquoi les armes avec lesquelles nous nous battons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas matérielles, mais elles sont puissantes devant Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 4. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nos armes sont donc spirituelles et puissantes pour renverser les forteresses. Remarquez que la bataille est dans le domaine de la pensée. Au verset 5, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Il nous a été donné des armes spirituelles qui vont libérer les pensées des hommes de la séduction et de l'esclavage de Satan et les amener sous le contrôle de Christ. C'est la grande bataille qui a lieu dans le monde aujourd'hui. Elle a lieu dans le domaine invisible des pensées des hommes et des femmes. Son intensité s'accroît dans chaque nation de la terre et une nation après l'autre est devenue un champ de bataille entre les forces de la lumière et celles des ténèbres. Les forces de la vérité et celles de l'erreur, les forces de l'amour et celles de la haine. Il nous a été donné des armes qui nous assurent la victoire si nous les utilisons. Dans le combat, il nous faut accepter au départ de démarrer très petit, puis la victoire s'amplifie. La discipline militaire nous prépare à souffrir et le confort n'est pas la chose essentielle. 2 Timothée 2, versets 3 et 4. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Dans la Bible, l'armée de l'Éternel sur terre est en relation avec le corps dans Ézéchiel 37, verset 10. Elle est en relation avec l'épouse dans le Cantique des Cantiques. Donc Ézéchiel 37, verset 10, j'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Cantique des Cantiques, chapitre 6, versets 4 et 10. Tu es aussi belle que Tirsa, mon ami, aussi charmante que Jérusalem, aussi majestueuse que des troupes sous leurs étendards. Qui est celle qui apparaît pareille à l'aurore, aussi belle que la lune, aussi pure que le soleil? Aussi majestueuse que des troupes sous leurs étendards. Et l'armée de l'Éternel est en relation avec l'Assemblée dans le psaume 110, verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. En effet, l'Assemblée doit dominer sur les puissances des ténèbres pour ouvrir la voie à l'armée afin qu'elle se lève et renverse les forteresses de Satan. C'est la stratégie de Dieu dans les temps de la fin. Deuxième partie, histoire et destinée d'Israël. Le destin d'Israël est le thème central des prophéties bibliques, car c'est à travers Israël que les nations sont et seront bénis. La grande majorité des prophéties sont déjà accomplies et par conséquent, nous attendons à ce que les prophéties restantes s'accomplissent avec la même précision. Cependant, un autre peuple qu'Israël est tissé avec son histoire. C'est l'Église de Jésus-Christ. L'Église avait son origine au sein même d'Israël, mais au cours des siècles, les destinées de ces deux peuples ont grandement divergé malgré une interaction continue. L'Église, tout comme Israël, avait ses prophètes, et le plus grand d'entre eux est son fondateur et roi, Jésus-Christ. Une des fonctions essentielles des prophètes est d'apporter au peuple de Dieu une vision claire de sa destinée. C'est pourquoi dans Proverbe 29, verset 18, Salomon dit que sans vision prophétique, le peuple périt. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. Et c'est l'absence d'une vision claire de sa destinée qui a conduit à la destruction de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ par les armées de Babylone. C'est ce que Jérémie annonça dans Lamentations 1, verset 9. Sa souillure est dans les plis de sa robe. Elle n'a pas songé à son sort final. Sa déchéance a été prodigieuse et personne ne l'a consolée. Vois mon humiliation, ô Éternel, car l'ennemi triomphe. Environ 600 ans plus tard, Jésus lui-même parla dans les mêmes termes à la même ville dans Luc 19, versets 42 à 44. Si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jérusalem est l'exemple historique par excellence des tragiques conséquences qui s'ensuivent lorsque le peuple de Dieu ne réussit pas à comprendre sa destinée. Cependant, les mêmes principes s'appliquent à l'Église. Or, nous voyons à travers toutes les Écritures que Dieu a données à Israël, comme à l'Église, tout ce dont ils ont besoin pour comprendre et accomplir leur destinée. Pourvu que l'on ne dise pas à l'une comme à l'autre que l'échec et le désastre surviennent parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Luc 19, verset 44. L'une des caractéristiques les plus passionnantes de notre époque est que les destinées d'Israël et de l'Église sont en train de commencer à converger. Leur convergence produira les événements les plus dramatiques et les plus significatifs de l'histoire de l'humanité. Comprenons bien pourquoi Israël est au centre de l'attention mondiale. Si la parole prophétique révèle que cet âge présent culminera avec la restauration et la rédemption d'Israël, cela signifie donc que plus nous nous rapprochons de la fin des temps, plus les pressions autour d'Israël seront intenses. Nous avons deux principales forces spirituelles qui entrent en conflit à propos du Moyen-Orient. D'un côté, la grâce de Dieu à l'œuvre pour la restauration d'Israël. De l'autre, les stratégies trompeuses de Satan qui s'opposent par tous les moyens dont il dispose au processus de restauration. Il est extraordinaire que tant de confusion ait existé et existe encore aujourd'hui dans l'Église en ce qui concerne les desseins de Dieu pour Israël. Il faut dire que la majeure partie de la stratégie de Satan contre Israël a été d'obscurcir la vérité telle qu'elle est révélée dans la Bible. Le combat pour Israël est en fait le combat pour la vérité. Cependant, il y a deux aspects essentiels de la vérité que nous devons voir avant de comprendre pourquoi la destinée d'Israël met en lumière la destinée de l'Église. Ces deux aspects sont l'identité et la destinée d'Israël. Grand 1, l'identité d'Israël. Petit 1, qui est juif? Dans Romains 2, versets 28 et 29, après avoir signalé que les Juifs de son époque s'étaient écartés dans de nombreuses circonstances de la volonté de Dieu et qu'ils avaient transformé l'alliance mosaïque en une forme rigide et légaliste, Paul termine le chapitre en disant: Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ce nom de juif dérive de Judas, qui signifie louange ou action de grâce. En hébreu, Yehuda signifie je louerai l'Éternel. C'est pourquoi Paul dit que si vous êtes un vrai juif, votre louange devrait venir de Dieu et non des hommes. Un vrai juif doit avoir la condition intérieure du cœur par laquelle il gagne la louange de Dieu. Ici, Paul est en train de dire que pour être un vrai juif, il ne suffit pas qu'une personne en ait les signes extérieurs. Il doit aussi avoir la condition spirituelle intérieure qui lui confère la louange de Dieu et par laquelle il gagne cette louange de Dieu. S'ajoute à Romains 2 deux autres passages où le Seigneur parle de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Apocalypse 2, verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Et Apocalypse 3, verset 9. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Cependant, cet usage restrictif ne pourra jamais remplacer le sens courant du mot juif. Petit 2. Qui est Israël? Il y a 77 passages où les mots Israël ou Israélite apparaissent dans les Écritures. 66 passages sont dans l'Ancien Testament et 11 dans le Nouveau Testament, mais 9 cas sur les 11 sont des références à l'Ancien Testament. Il reste seulement deux passages dans lesquels Israël est utilisé dans un sens particulier, et ce sens restreint l'application du mot. Dans le premier passage de Romains 9, versets 6 à 9, Paul explique que même si Israël n'a pas obéi à la parole de Dieu, cela ne veut pas dire que la parole est restée sans effet. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Parce qu'ils sont la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Mais il est dit en Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom, c'est-à-dire ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Voici en effet la parole de la promesse. À cette même époque je viendrai, et Sarah aura un fils. Paul explique ici qu'être physiquement descendant d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, n'est pas suffisant. Pour obtenir la bénédiction promise par Dieu, une personne doit aussi faire preuve de la même foi qui caractérisait Abraham, Isaac et Jacob, sinon elle n'est pas vraiment digne du nom d'Israël. Paul y inclut seulement les descendants d'Israël qui sont dans la foi du Messie. C'est une erreur de suggérer que Paul décrit dans ce passage tous les croyants comme étant Israël. Dans d'autres endroits, Paul utilise Israël dans le sens normal de tous ceux qui descendent d'Abraham, d'Isaac et Jacob, croyants ou incroyants. On le voit dans le même chapitre au verset 3 et 5, lorsqu'il parle de ses frères et ses parents selon la chair qui sont israélites. « Car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses. » Dieu bénit éternellement. Amen. Paul parle ici des Israélites, ceux qui ont effectivement rejeté le Messie. Autrement dit, Paul voudrait prendre leur position d'incroyance et de rejet, si Dieu le lui permettait. Petit 3. Qui est l'Israël de Dieu? L'autre passage dans lequel Paul utilise Israël dans un sens limité est Galates 6, versets 15 et 16. Car en Jésus-Christ, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Paul parle de deux sortes de gens. Ceux qui sont sans antécédents juifs ont fait l'expérience de la nouvelle naissance et marchent dans la nouvelle création. Les Israélites, qui par descendance naturelle, sont restés dans la foi, qui était la marque de leurs ancêtres, et au travers de laquelle ils ont embrassé Jésus comme leur Messie, entrant ainsi dans la nouvelle naissance. Ce sont ces derniers que Paul appelle l'Israël de Dieu. Or, dit Paul, ce qui importe vraiment ne consiste pas en quelques rites religieux, mais en une action créatrice de Dieu dans le cœur, régénérée par la nouvelle alliance. Attention, la théologie du remplacement perpétrée par un certain nombre de pères de l'Église a affirmé que l'Église est l'Israël de Dieu. Nous ne sommes pas l'Israël de Dieu. Cette théorie que l'Église est l'Israël spirituel a tellement pénétré sa pensée qu'elle a produit des attitudes et des formes de pensée qui n'ont pas de fondement solide dans les Écritures. À l'époque du Nouveau Testament, la condition naturelle du monde des gentils était comparable à un champ laissé dans sa condition naturelle sauvage. Or, pour qu'un gentil vienne à Christ, il fallait une intervention directe de Dieu dans sa vie, qui n'était passée par aucun processus historique de préparation. Par contre, le peuple juif serait passé par un long processus historique, dont la rencontre avec Jésus était le point culminant. Le peuple juif est comme un champ soigneusement cultivé au cours de nombreux siècles. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 4, verset 38, Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Pour les uns comme pour les autres, il s'est produit d'une manière semblable une rencontre personnelle avec le Messie et cette rencontre a transformé leur vie. C'est pourquoi il est juste et approprié de décrire ces Juifs comme l'Israël de Dieu. Leur foi dans le Messie représente l'accomplissement du plan pour lequel Dieu avait amené Israël à l'existence. Petit 4. Israël distinct de l'Église. Israël n'est jamais utilisé dans le Nouveau Testament comme un synonyme de l'Église. L'opposé est aussi vrai. Israël est le peuple physique alors que l'Église est le peuple spirituel. Il y a en fait plusieurs passages où Israël signifie les Juifs qui ont réellement rejeté Jésus et qui par conséquent ne peuvent être considérés comme des membres de son Église. C'est dans ce sens que le mot Israël est employé dans Romains 11, verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, les autres ont été endurcis. Israël est utilisé comme étant ceux qui n'ont pas cru en Jésus le Messie et ne font donc pas partie de son Église. Au travers de ces propos dans Romains 11, versets 11 à 14 et 25, que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, et tiens continuellement leur dos courbé. Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber? Certes non, mais par leur chute, le salut a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur défaite la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement? Je vous le dis à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, moi je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Paul lutte contre la même ignorance concernant le plan de Dieu pour Israël il y a 2000 ans et qui persiste aujourd'hui. Une fois de plus, il est clair que Paul parle d'Israélites incroyants par contraste avec les gentils qui sont devenus croyants. Et Paul conclut avec cette merveilleuse déclaration au verset 26, Et ainsi tout Israël sera sauvé. Si Israël était un synonyme de l'Église signifiant ceux qui sont sauvés, cette affirmation serait ridicule parce que Paul serait en train de dire que tous ceux qui sont sauvés seront sauvés. Une telle interprétation est à rejeter. Petit 5, qui est l'Église? D'après Éphésiens 1, verset 22-23, l'Église est son corps. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vu sous cette perspective, l'Église n'est pas une organisation, mais un organisme. Chaque membre de son corps est directement relié au Christ, par une foi personnelle et à travers Christ, à tous les autres membres. Sachons-le dire, dans nos pays prospères à culture chrétienne, seule une petite minorité de ceux qui sont appelés chrétiens sont membres de l'Église qui est décrite dans le Nouveau Testament. Pourtant, au milieu de toute cette confusion, l'Église véritable est toujours là, sur la terre. C'est ce que Paul écrit à Timothée, en 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Pour les Juifs, l'Église est une large institution de même ordre qu'un parti politique qui, pendant tant de siècles, a joué le rôle principal parmi ceux qui ont propagé l'antisémitisme. La confusion créée par Satan en ce qui concerne l'identité d'Israël est seulement surpassée par la confusion qu'il a fait naître au sujet de l'identité de l'Église. Mais Israël, comme l'Église, ont essentiellement en commun un facteur important, l'élection divine, le choix de Dieu. Dans Romains 9, versets 10 à 15, nous avons un exemple historique d'élection tiré de l'Ancien Testament avec la naissance de Jacob et d'Ésaü. Bien plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, qui n'avaient fait ni bien ni mal. Pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Non, certes. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde, à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion, de qui j'aurai compassion. Paul montre ici que Dieu a fait cela pour démontrer que ce qui est décisif dans le destin d'une personne n'est pas ce qu'elle fait, mais le choix de Dieu. Paul, se mettant à la place de ses lecteurs, nous donne la réponse aux versets 14 et 15. La miséricorde et la compassion viennent de la décision souveraine de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Nos bonnes œuvres ne suffisent pas. Nous sommes totalement dépendants de sa miséricorde qu'il distribue librement selon son choix. Au verset suivant, 16 à 19, Paul passe du thème de la miséricorde à celui du jugement. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité tout exprès, pour montrer en toi ma miséricorde, et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, qu'a-t-il encore à blâmer? Car qui résiste à sa volonté? » En conclusion, rappelons-nous que Dieu ne doit faire miséricorde à aucun d'entre nous. Cela procède uniquement de sa grâce. Quand Dieu offre sa miséricorde, il pose simplement certaines conditions qu'il nous demande de respecter. Elles sont énoncées dans le message de l'Évangile. En fait, il désire que ses enfants aient la révélation de son cœur de père, de sa personne et de sa gloire. Grand 2, la restauration d'Israël. Jérémie 32, versets 38 à 42. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même conduite, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs fils après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'écartent pas de moi. Je me réjouirai à leur sujet pour leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel. De même que j'ai fait venir sur ce peuple tout ce grand malheur, de même je ferai venir sur eux tout le bien dont je parle à leur sujet. Dieu déclare qu'il fera venir sur Israël tout le bien qu'il leur a promis, juste de la même manière qu'il a fait venir des calamités sur ce peuple. Jérémie 50, versets 19 à 20. Je ferai retourner Israël vers son enclos. Il aura ses pâturages du Carmel et du Bazan, et son appétit sera comblé sur les monts d'Éphraïm et dans Galaad. En ces jours-là, en ce temps-là, oracle de l'Éternel, on cherchera la foi d'Israël et elle n'existera plus. Le péché de Juda, il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Dieu dévoile ensuite son plan pour restaurer Israël. Les derniers mots coïncident avec la promesse citée dans Ésaïe 45, verset 25. Par l'Éternel seront justifiés et se glorifieront tous les descendants d'Israël. Pour ceux qui seront justifiés, en raison de leur foi dans le Messie, il ne restera aucune trace d'iniquité ou de péché. Le dernier mot laissé pourrait bien être rendu par réservé. Dieu s'est engagé à pardonner le reste qu'il est en train de se réserver pour sa gloire. Ézéchiel 36, versets 22 et 23. Eh bien, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'ai agi de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous vous êtes rendus. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, ce nom que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, oracle du Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Dieu révèle un des desseins essentiels de la restauration d'Israël, sa propre gloire. Cela veut dire que la promesse de Dieu de restaurer Israël n'est pas basée sur quoi que ce soit de bien que les Juifs aient fait, mais qu'elle a seulement pour but de glorifier Dieu. Si Israël méritait le pardon et la préservation, les Juifs n'auraient pas besoin de la grâce de Dieu. Mais c'est seulement en recevant sa grâce qu'ils peuvent restaurer pour lui la gloire que leurs péchés lui ont dérobée. Dieu les ramènera d'abord sur leur terre, puis il commencera à les nettoyer de leurs péchés. Ézéchiel 36, versets 24 à 26. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ce processus de transformation d'un cœur de pierre en un cœur de chair a déjà commencé et il se produit sous nos yeux. Dieu révèle que ce changement de cœur préparera Israël à recevoir l'onction du Saint-Esprit. Ézéchiel 36, versets 27-28. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Il n'y a aucun doute en ce qui concerne la terre que Dieu a promise aux patriarches d'Israël, cette terre qui est maintenant connue sous le nom d'Israël. Cette promesse du retour sur leur terre est une promesse qu'on doit interpréter de façon littérale et historique. Il s'agit bien du retour historique des Juifs sur leur terre. Si elle ne s'accomplit pas, la Bible n'est pas un livre fiable. Attention, la restauration physique sur la terre d'Israël n'est pas le but final. C'est seulement le prélude nécessaire au point culminant qui lui est le but ultime de Dieu, c'est-à-dire la restauration à Dieu lui-même. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Tous les événements qui se déroulent actuellement au Moyen-Orient sont en train d'être divinement orchestrés afin de donner la vie à cet objectif suprêmement important, la réconciliation d'Israël avec son Dieu. Un peu plus loin, au verset 32, Dieu rappelle au peuple juif qu'il n'a rien fait pour mériter sa restauration. « Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. » En définitive, la race humaine tout entière ne peut rien espérer de bon, si ce n'est la miséricorde et la grâce de Dieu. On ne peut les mériter, et ceci est aussi vrai pour les juifs que pour les gentils. Cependant, en restaurant Israël, Dieu a choisi de faire une grande démonstration historique de cette vérité à toutes les nations. Par cette démonstration historique, il révèle qu'il est en train de faire entrer son second peuple, l'Église, dans la terre promise, la Jérusalem céleste, en lui faisant goûter de plus en plus puissamment une nouvelle dimension dans l'esprit de ce qu'il est et dans ce qu'il peut et veut, afin de la faire entrer dans la plénitude de sa gloire. Fin du cours. Questions sur le cours. Première question. Quelles sont les sept caractéristiques de l'Église selon le cours? Expliquez-les en donnant des versets bibliques. Deuxième question. En parcourant l'histoire d'Israël depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, en citant des exemples bibliques, qu'est-ce que le peuple d'Israël? Expliquez-vous. Qui est l'Israël de Dieu dont parle Paul dans le Nouveau Testament? Troisième question. Qui est l'Église? Expliquez-vous. Que représente l'Église des gentils et l'Église messianique? Quatrième question. Quel rôle joue l'Église par rapport à Israël? Quelle est la destinée d'Israël selon Romains 11?